Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast littéraire. Je tiens d'ores et déjà à vous prévenir que il risque d'y avoir quelques petits bruits car les fenêtres sont ouvertes et que mes voisins adorent faire des travaux, apparemment. Deuxième chose, ce podcast, enfin cet épisode en tout cas, m'a pris vraiment longtemps pour la simple et bonne raison que je n'arrivais pas à en être satisfaite parce que j'avais envie d'inclure tout un tas d'œuvres et d'auteurs et d'autrices et j'ai dû faire un choix. Donc il y a des poètes, des poétesses, des auteurs et des autrices que je n'ai pas mentionnés comme Maupassant, comme Mallarmé, comme Lorca, qui, comme Edgar Allan Poe, comme Bachot, qui sont des artistes qui auraient totalement pu apparaître dans cet épisode du podcast, mais il m'a fallu faire un choix et j'ai donc fait une sélection. Je vous encourage vivement à partager vos recommandations si vous en avez sur ce sujet, et comme d'habitude je précise, ce podcast ne prétend pas à l'exhaustivité ni à être un cours d'histoire littéraire ou de littérature. J'ai tout simplement envie de partager mes connaissances, mes intérêts et ma passion pour la littérature avec vous dans une perspective un petit peu plus engagée, un petit peu plus ouverte sur le monde et sur la modernité et sur les luttes sociales, pour vous montrer que les lettres modernes et la littérature ne sont pas réservées à une élite. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un motif ou d'un élément, d'un astre très présent en littérature, et ce depuis les mythes fondateurs jusqu'à la poésie romantique du 19e. En fait, a actuellement lieu au Grand Palais une exposition sur la Lune qui a inspiré ce nouvel épisode du podcast. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un opéra féerie d'Offenbach, ou d'Offenbach, comme on le prononce généralement, qui s'intitule Le Voyage dans la Lune, qui est une adaptation d'un roman de Jules Verne, et c'est l'arrivée sur la Lune lorsque les Sélénites, les habitants de la Lune, sont en train de voir apparaître un vaisseau spatial qui se dirige vers, tout simplement, la Lune. Vous l'aurez donc deviné, nous allons parler Lune durant cet épisode. Alors, lorsqu'on pense à la Lune, on pense souvent, il me semble, dans la littérature aux références très poétiques du romantisme. On a cette image du poète ou de l'individu incompris, contemplant la Lune en pleine solitude. Et en effet, le 19e, et pas uniquement le romantisme, offre de nombreuses mentions poétiques, surtout de la Lune. Mais il ne s'agit pas en fait de la seule occurrence de cet astre dans la littérature, qui peut être présentée tour à tour comme bienveillante, féconde, inspiratrice, mais également menaçante et parfois presque diabolique. En réalité, la Lune est tellement présente dans les arts, même si on s'intéresse ici plus à la littérature, que Claude Aziza a publié une anthologie à ce sujet en 2009 qui s'intitule « Le roman de la Lune ». C'est donc un motif ou un personnage qui dépasse largement le 19e, largement le romantisme, largement la littérature française et européenne, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans ce podcast et avec les sélections que j'ai pu faire. Alors, tout simplement, on va commencer par les mythes fondateurs, on va passer brièvement dessus, mais c'est effectivement un astre très important, même s'il est quand même moins important que le Soleil, beaucoup moins présent. Alors au Japon, il y a la Lune comme le Soleil qui se retrouve dans les divinités primaires du Shinto, donc on a déjà parlé, il me semble, dans un épisode précédent du Soleil. La déesse du Soleil s'appelle Amaterasu, et le dieu de la Lune est cette fois-ci masculin et s'appelle Tsukuyomi. Donc la Lune, elle est également présente dans l'Odyssée d'Homère, par exemple, ou dans l'épopée de Gilgamesh. Elle est incarnée avec le dieu Thoth dans la mythologie égyptienne, et elle est donc en fait présente depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec une multitude d'attributs, de connotations et de facettes, ou devrais-je même dire, de cycles et de positions. Le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, qui est vraiment l'un des points les plus importants de la littérature qui traite de la Lune, c'est la science-fiction et les voyages vers la Lune. Donc c'est l'un des aspects vraiment les plus connus de l'utilisation de l'astre lunaire dans la littérature, qu'il s'agisse de la science-fiction à proprement parler, comme avec H.G. Wells ou avec des précurseurs comme Jules Verne, mais également des textes qui ne s'inscrivent pas réellement dans ce genre, soit parce qu'ils sont vraiment trop antérieurs, soit parce que la nature même ne correspond pas exactement aux normes définies de la science-fiction. Alors là, je vais en mentionner quelques-uns. Encore une fois, c'est pas exhaustif, je vais suivre un ordre chronologique pour vous montrer un petit peu l'évolution des différentes façons d'écrire les voyages vers la Lune. Alors, en 1650, Cyrano de Bergerac, l'auteur, écrit l'histoire comique des États et Empires de la Lune, tome qui sera suivi de la même chose, mais Empire du Soleil. Et comme à l'époque, c'est très souvent le cas, en fait, c'est pour l'auteur l'occasion de critiquer la société sans être censuré ou sans être inquiété grâce à cette distanciation spatio-temporelle et en s'inscrivant dans l'esprit de l'utopie qui avait été, on va dire, assez popularisé avec Thomas More qui a écrit un livre qui s'appelle Utopia. Donc je vais vous lire un petit extrait de l'arrivée sur la Lune du personnage qui fait plusieurs tentatives pour arriver sur la Lune. La première façon dont il essaie de se rendre sur la Lune, je trouve, est assez poétique. Il essaie de remplir des fioles de vent et il essaie donc de monter sur la Lune grâce à cela. Ça échoue. Et là, c'est la bonne. Il est enfin arrivé sur la Lune. À peine, quand je fus relevé, eus-je remarqué les bords de la plus large de quatre grandes rivières qui forment un lac en la bouchant, que l'esprit ou l'âme invisible des simples qui s'exhalent sur cette contrée me vint réjouir l'odorat. Les petits cailloux n'étaient raboteux ni durs qu'à la vue. Ils avaient soin de s'amollir quand on marchait dessus. Je rencontrai d'abord une étoile de cinq avenues, dont les chaînes qui la composent semblaient par leur excessive hauteur porter au ciel un parterre de hautes futaies. En promenant mes yeux de la racine jusqu'au sommet, puis les précipitant du faîte jusqu'au pied, je doutais si la pierre les portait ou si eux-mêmes ne portaient point la terre pendue à leurs racines. On dirait que leur front, superbement élevé, pliait comme par force sous la pesanteur des globes célestes dont ils ne soutiennent la charge qu'en gémissant. Leurs bras étendus vers le ciel semblent, en l'embrassant, demander aux astres la bénédiction toute pure de leurs influences et la recevoir auparavant qu'elles aient rien perdu de leur innocence au lit des éléments. Donc on voit que c'est quand même une description assez poétique, assez angélique presque, assez éthérée de ce nouveau milieu qu'est la Lune. Et avant même Cyrano de Bergerac, donc en fait pas très chronologique, je suis désolée, avant même Cyrano de Bergerac, Kepler, qui était un scientifique, a écrit au tout début du XVIIe un récit dont le titre, le songe ou l'astronomie lunaire, révèle en fait tout le côté ambivalent de la Lune et de son utilisation dans les écrits. Le songe, c'est à la fois un rêve, mais c'est également une révélation. Et donc on est plutôt dans le domaine effectivement de l'art, de la fiction, de l'imagination. Et l'astronomie vient ici apporter un côté un peu plus factuel et scientifique, ce qui se confirme en fait dans le texte. Il s'agit en effet pour Kepler d'exposer et de partager ses connaissances en astronomie tout en écrivant une fiction très précurseur de la science-fiction. En 1865, Jules Verne, donc, que j'ai mentionné plus tôt en ouverture de ce podcast, écrit à son tour lui un récit de voyage intitulé « Vers la Lune ». Puis Dumas nous livre un conte où un garde-chasse s'envole sur le dos d'un oiseau jusqu'à la Lune. En 1901, paraît « Les premiers hommes dans la Lune » de H.G. Wells, qui est un roman beaucoup plus proche, lui, de ce que l'on connaît, nous, en termes de science-fiction. Alors, il y a un point qui est intéressant toutefois, en opposition avec les représentations de la Lune actuelle, dans chacun de ces textes, la Lune est peuplée de créatures appelées les sélénites, je vous les ai mentionnées également plus tôt. Et ça, c'est une croyance qui est apparue très tôt et qui a progressivement disparu avec l'avancée des connaissances, bien sûr. On va donc passer à la deuxième partie de ce podcast qui s'intéressera à l'aspect menaçant et inquiétant de la Lune. Alors, la Lune a parfois été un astre menaçant et inquiétant, et même assez souvent en réalité. Elle est l'alliée de la nuit, le royaume sombre et mystérieux. Elle est également inquiétante en raison, par exemple, des éclipses. Et ça s'aperçoit notamment dans Le Roi Lear de Shakespeare, où le chaos politique est attribué aux éclipses, ou encore chez Homère. On pense par ailleurs sans peine à la pleine lune, qui est l'une des positions lunaires les plus inquiétantes associées à des créatures telles que les loups-garous. Au Japon, l'on retrouve par ailleurs un recueil de contes folkloriques, fantastiques, avec des fantômes, des esprits, des créatures surnaturelles, qui s'appelle « Contes de pluie et de lune » en français, en japonais « Ugetsu Monogatari », qui a été écrit par Ueda Akinari. Et il a d'ailleurs été mis... Il y a un film qui a été fait à partir de ces contes qui sont recueillis dans cet ouvrage. Et je vais vous faire écouter le début, l'intro musicale de ce film qui, à mon sens, nous plonge vraiment dans cette ambiance mystérieuse et inquiétante qui est souvent associée à la Lune, cet astre assez aquatique et surnaturel. Donc la lune est également un astre changeant et humide qui gouverne les femmes. Et c'est un point qui est abordé dans l'expo La lune au Grand Palais. Elle est aussi souvent liée à la sorcellerie, qui elle-même est souvent liée au féminin. Et on voit notamment avec une œuvre lors de l'exposition qui est assez bien expliquée, que les femmes étaient considérées comme de constitution, plus humide, plus instable, car justement gouverné par cet astre lunaire qui varie et provoque les marées, et qui semble mystérieux. Ce qui vient également accréditer cette pensée, c'est la proximité du cycle menstruel avec celui de la Lune, qui est d'environ 28 jours, on va dire. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, m'est venu à l'esprit immédiatement, en fait, lorsque j'étais en train de scripter ce podcast, ce magnifique, mais magnifique poème de Baudelaire qui s'intitule « Les bienfaits de la Lune ». La lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « Cet enfant me plaît ». Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère et déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis, et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux. Et toute cette lumière vivante pensait et disait « Tu subiras éternellement l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. » Tu aimeras ce que j'aime et ceux qui m'aiment, l'eau, les nuages, le silence et la nuit, la mer immense et verte, l'eau uniforme et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, l'amant que tu ne connaîtras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimée de mes amants, courtisée par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts, dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux-là qui aiment la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela... Maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couchée à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques. Donc ça, c'est vraiment un poème que j'ai toujours adoré. C'est un poème que j'ai découvert assez jeune, qui m'a toujours beaucoup marqué parce que, en fait, je me suis toujours, on va dire, plus ou moins reconnue dans certains éléments de ce poème. Donc. Et un autre texte également m'est venu à l'esprit, cette fois-ci issu d'un roman et qui s'est vraiment imposé à moi encore une fois lorsque je rédigeais cette partie-là du podcast. C'est le chapitre « Toi » de Salammbô de Flaubert. Œuvre sublime, est-il besoin de le préciser? Alors dans ce chapitre, en fait, Salammbô implore et invoque la lune dans une tirade quasi mystique que je vais vous lire. Donc c'est un texte un petit peu long mais qui est vraiment magnifique, je trouve. La plume de Flaubert est tout simplement incroyable. Ô Rabelna, Baalet, Tanit. Et sa voix se traînait d'une façon plaintive, comme pour appeler quelqu'un. Anaïtis, Astarté, Dekerto, Astorette, Milita, Altara, Elissa, Tirata. Par les symboles cachés, par les sistres résonnants, par les sillons de la terre, par l'éternel silence et par l'éternelle fécondité, dominatrice de la mer ténébreuse et des plages azurées, ô reine des choses humides, salut. Mais elle releva la tête pour contempler la lune et mêlant à ses paroles des fragments d'hymnes, elle murmura « Que tu tournes légèrement, soutenu par l'éther impalpable. Il se polie autour de toi et c'est le mouvement de ton agitation qui distribue les vents et les rosées fécondes. Selon que tu crois et décrois, s'allongent ou se rapetissent les yeux des chats et les taches des panthères. Les épouses hurlent ton nom dans la douleur des enfantements. Tu gonfles les coquillages, tu fais bouillonner les vins, tu putréfies les cadavres, tu formes les perles au fond de la mer. Et tous les germes, ô déesse, fermentent dans les obscures profondeurs de ton humidité. Quand tu paries, il s'épand une quiétude sur la terre. Les fleurs se ferment, les flots s'apaisent, les hommes fatigués s'étendent la poitrine vers toi. Et le monde, avec ses océans et ses montagnes, comme en un miroir, se regarde dans ta figure. Tu es blanche, douce, lumineuse, immaculée, auxiliatrice, purifiante, sereine. Le croissant de la lune était alors sur la montagne des eaux chaudes, dans l'échancrure de ses deux sommets, de l'autre côté du golfe. Il y avait en dessous une petite étoile et tout autour un cercle pâle. Salammbô reprit. Mais tu es terrible maîtresse, c'est par toi que se produisent les monstres, les fantômes effrayants, les songes menteurs. Tes yeux dévorent les pierres des édifices et les singes sont malades toutes les fois que tu rajeunis. Où donc vas-tu? Pourquoi changer tes formes perpétuellement? Tantôt mince et recourbée, tu glisses dans les espaces comme une galère sans mâture, ou bien, au milieu des étoiles, tu ressembles à un pasteur qui garde son troupeau. Luisante et ronde, tu frôles la cime des monts comme la roue d'un char. Ô Tanit, tu m'aimes, n'est-ce pas? Je t'ai tant regardé. Mais non, tu cours dans ton azur et moi je reste sur la terre, immobile. Dernière partie de cet épisode, j'ai envie de vous parler de la lune comme témoin et allié des poètes. Alors en poésie, la lune est très souvent une figure de témoin, ce qui est très intéressant parce que cette représentation par contre n'est pas du tout présente pour le soleil en règle générale. La lune semble être plus personnifiée en fait, et elle apparaît donc comme une entité consciente assistant aux amours, aux crimes et aux détresses des humains et des humaines. Je m'intéresse beaucoup à la poésie étrangère, notamment arabophone, et une grande part de cette poésie traite de l'exil. Et la lune est souvent présente dans ses poèmes, témoin à la fois impuissante mais aussi parfois consolante de la désolation et détresse de l'exilé. Le premier poème dont j'ai envie de vous faire part, c'est un poème qui s'intitule « Lune rouge » qui a été écrit par Mohamed Afifi Matar, qui était un poète égyptien né en 1935 et mort en 2010. Alors il a dû s'exiler en Irak durant le régime militaire de Sadat, en Irak d'où il a continué à écrire et à être actif. Et voici donc l'un de ses poèmes. Perçant les murs du village, la tombe égorgée s'envole. Les chauves-souris du soir affluent et les lanternes s'éteignent. Perçant l'air du village, les araignées tombent et en récitant leurs oraisons funèbres légendaires, les criquets grincent terriblement. Ravage, les astres des ténèbres. Les auges s'emplissent alors de cendres lorsque la faim expire. Ô lune des épis et des mythes, éclate sur le pont de la famine, en tranches de pain. À travers les murs du village, les branches du soleil primitif murmurent, les auges éclatent en rire dans les moulins. Sur tes seins, deux nerfs prins rient dans le sang de l'enfer à la voix grave. Leur voix rit pour le soleil, elles ouvrent leurs portes nocturnes entre le sang et l'accouchement pénible. Donc là, on voit que c'est un poème qui est quand même inscrit dans une dimension extrêmement plaintive, négative et douloureuse, avec un rapport à l'organique qui va de l'animal jusqu'à l'accouchement pénible. On nous parle quand même de famine. Il y a une opposition effectivement entre le soleil primitif, puis un soleil pour lequel on rit, et cette lune des épis et des mythes. Il y a vraiment un double temps, une articulation dans ce poème. Comme beaucoup de poèmes des exilés, il y a un côté presque lyrique et épique qu'on retrouve dans ces poèmes de douleur. Et c'est la même chose pour Sami Al-Qassim, qui lui est un poète palestinien appartenant à la communauté druze. Il est né en 1939, il est mort en 2014. Il était professeur, puis il fut radié, il a été journaliste, il a été incarcéré, il a été licencié, il a été assigné à résidence plusieurs fois en raison de ses engagements, comme la plupart en fait des intellectuels palestiniens qui ont osé prendre la parole sur cette question palestinienne. Et je vais donc vous lire un de ses poèmes. Allumez le feu pour qu'au miroir des flammes je vois la cour de la maison, le pont et les champs dorés. Allumez le feu pour que je voie mes larmes la nuit du massacre, que je voie votre sœur, cadavre au cœur déchiqueté comme un oiseau, par les langues et les vents métis. Allumez le feu pour que je voie votre sœur comme un cadavre, le jasmin comme un linceul, et la lune comme un encensoir, la nuit du massacre. Allumez le feu pour que je me voie mourir, mon soupir désespéré sera votre héritage, mon soupir désespéré avant que le jasmin devienne témoin, que la lune ne devienne témoin. Allumez le feu pour que vous puissiez voir. Allumez le feu. Donc ça, c'est un poème, enfin tout du moins la partie, une partie de ce poème que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on y ressent réellement l'urgence, le côté impérieux de cette de devenir témoin, d'être témoin de l'exil et de la situation palestinienne, les impératifs, notamment avec les nombreuses répétitions. Comme très souvent dans la littérature palestinienne, il y a la mention de la maison, du pont, du champ, pour mentionner la terre, en fait, tout simplement, la terre palestinienne, le jasmin également, et là, la lune qui devient un encensoir, puis par la suite un témoin. C'est vraiment une poésie, la poésie palestinienne, que je vous encourage fortement à découvrir. Elle est extrêmement forte, extrêmement belle également. Si vous avez la possibilité de la lire en arabe, je pense que ce serait effectivement encore mieux. Et il y a aussi une forme de violence dans cette poésie, hein, quand même, lorsque la sœur est un cadavre au cœur déchiqueté comme un oiseau. Les oiseaux, par ailleurs, sont très souvent fréquents également en poésie, et selon l'oiseau, selon le poème, ils ont des significations très particulières. Ça, c'est très intéressant, mais un peu plus compliqué. Pour finir sur cette partie arabophone, je vais vous faire écouter un poème de Mohamed Al-Maghout, qui est syrien. Il est né en 1934, il est mort en 2006. Il a également connu l'incarcération, il a également été torturé, il a connu l'exil. Son premier recueil s'intitule en fait « Tristesse au clair de lune ». Il a été publié en 1959. Il y a également un poème qui porte ce nom que je vais vous faire écouter maintenant. Donc là, c'est purement pour le plaisir de pouvoir écouter de la littérature, de la poésie dans une autre langue.
أيها الكناري المسافر في ضوء القمر خذني إليها قصيدة غرام أو طعنة خنجر فأنا متشرد وجريء أحب المطر وأنين الأمواج البعيدة من أعماق النوم أستيقظ يفكر بركبة امرأة شهية رأيتها ذات يوم لآخر الخمر تماخرط الشعر كل حبيبتي ليلى ذات الفم السكران والقدمين الحريريتين إنني مريض ومشتاق إليها إنني المحوى سار أقدام على قلبي.
On va quitter ces contextes assez lourds et tragiques pour voir que la lune reste la compagne des poètes dans des situations différentes. L'un des poètes, dont j'ai envie de vous parler, c'est Verlaine, que je ne connais en fait que très peu et que j'ai très envie de redécouvrir. Donc comme je l'ai précisé au début de ce podcast, vous pouvez également lire Mallarmé pour des nombreuses mentions de la lune. Vous pouvez également lire Lorca, pour des mentions très intéressantes de la Lune et de nombreuses personnifications de la Lune. Alors, chez Verlaine, la Lune est souvent là pour observer les amours des humains et humaines, et notamment les amours lesbiennes dans le recueil Amis, avec un E. Alors, on retrouve cette double composante en fait de la Lune dans ses poèmes. Elle est mystérieuse, elle est gardienne des secrets, et puis c'est aussi une figure profondément féminine, parce que la lune c'est féminin, et qu'on se retrouve, hormis le regard du poète, on se retrouve dans un contexte où il n'y a que des personnages féminins, et même l'énergie et les descriptions sont très féminines. Donc je vais vous lire deux poèmes. Le premier s'intitule « Au balcon » et je le trouve juste magnifique. Toutes deux regardaient s'enfuir les hirondelles, l'une pâle aux cheveux de jais, et l'autre blonde et rose, et leur peignoir léger de vieille blonde, vaguement serpenté, nuages autour d'elles. Et toutes deux, avec des langueurs d'asphodèles, tandis qu'au ciel montait la lune molle et ronde, savouraient à longs traits l'émotion profonde du soir et le bonheur triste des cœurs fidèles. Telles, leurs bras pressants moitent leur taille souple, couple étrange qui prend pitié des autres couples, telles sur le balcon rêvaient les jeunes femmes. Derrière elles, au fond du retrait riche et sombre, emphatique comme un trône de mélodrame, et plein d'odeur, le lit défait s'ouvrait dans l'ombre. C'est un poème que je trouve extrêmement beau, extrêmement harmonieux, extrêmement rond dans les sonorités. Donc vous voyez que la lune est encore molle et ronde, elle renvoie au corps féminin de manière assez évidente, hein, des corps alanguis par l'amour, et il y a cet aspect où elles sont déjà à l'extérieur, sur le balcon, la lune les regarde, on n'est pas très très sûr de la nature de leur relation, et puis au fur et à mesure, le poème progresse pour se diriger vers l'intimité et finir effectivement sur un lit défait et plein d'odeurs, et donc il y a une évolution également au niveau du sens. On est au début dans quelque chose qui est scopique, c'est-à-dire qu'on regarde et puis on finit sur une intensité un peu plus grande, une proximité en tout cas peut-être un peu plus grande au niveau de la sensorialité avec les odeurs. Deuxième poème, qui porte bien son nom, Sappho. Furieuse, les yeux caves et les seins roides, Sappho, que la langueur de son désir irrite, comme une louve court le long des grèves froides. Elle songe à Fan, oublieuse du rite, et, voyant à ce point ses larmes dédaignées, arrache ses cheveux immenses par poignées. Puis elle évoque, en des remords sans accalmie, ces temps où rayonnait, pure, la jeune gloire de ses amours chantés en vers que la mémoire de l'âme va redire aux vierges endormies. Et voilà qu'elle abat ses paupières blêmies et saute dans la mer où l'appelle la moire, tandis qu'au ciel éclate, incendiant l'eau noire, le pâle séléné qui venge les amis. Et là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans le premier poème, on avait la lune qui était décrite et mentionnée sous son côté féminin, la lune. Là, la lune est mentionnée comme le pâle séléné. Et autant au début, il y avait une célébration de l'amour féminin, de l'amour lesbien, des formes féminines, d'une extase féminine, en fait, tout simplement, d'une sorte d'harmonie réelle, là, ça faut... Son désir est rejeté, ses amours sont au plus mal et elle se suicide. Et là, quand on a une forme, bien sûr, de mort en fait du féminin, la lune est incarnée dans son côté masculin. Ce que je trouve quand même assez intéressant, mais on nous dit quand même, tandis qu'au ciel éclate, incendiant l'eau noire, le pâle séléné qui venge les amis. Donc même si on est dans un côté masculin quand même de la lune, qui renvoie à une divinité, ça reste une lune du côté des femmes, parce qu'elle venge les amis. Et un dernier passage d'un poème toujours de Verlaine qui s'intitule « Ségedi ». Ah, ton corps noir et rose, éclair de lune. Ah, pose ton coude sur mon cœur et tout ton corps vainqueur, tout ton corps que j'adore. Donc là, c'est un extrait un peu plus court, un peu plus simple, où est encore mentionné la lune pour ce côté effectivement onirique, ce côté extrêmement sensuel et même sexuel, sachant que la lune est également présente dans les poèmes érotiques de Verlaine, qui sont parfois très très crus. Alors, cette union de la lune et du féminin, dans un cadre extrêmement intimiste et sensuel, se retrouve également dans les écrits de René Vivien, notamment dans deux poèmes qui sont marqués par le sceau de la sororité entre cette lune et la poétesse, d'une complicité féminine de longue date qui fait de l'astre lunaire une confidente, une consolante, le recours et le secours en fait de René Vivien dans des poèmes qui sont presque élégiaques. Alors le premier poème s'appelle « Invocation à la lune ». Ô lune chasseresse aux flèches très légères, viens détruire d'un trait mes amours mensongères. Viens détruire les faux baisers, les faux espoirs, toi dont les traits ont su percer les troupeaux noirs. Toi qui fus autrefois l'amie et la maîtresse, incline-toi vers moi, dans ma grande détresse. Dis-moi que nul regard n'est divinement beau pour qui sait contempler le grand regard de l'eau. Ô lune, toi qui sais disperser les mensonges, éloigne le troupeau serré des mauvais songes, et, daignant aiguiser l'arc d'argent bleu qui luit, accorde-moi l'espoir d'un rayon dans la nuit. Ô lune, toi qui sais rendre l'âme à soi-même, dans sa vérité froide, indifférente et blême, ô toi victorieuse adversaire du jour, accorde-moi le don d'échapper à l'amour. Donc c'est un poème qui est issu d'un recueil qui s'appelle « Dans un coin de violette » qui a été publié en 1910. Et là on voit encore une fois toujours les associations féminin, eau, lumière, mélancolie et lune. Et là la lune serait un rempart contre les amours malheureux. Et le deuxième poème s'intitule « La lune consolatrice ». Donc un titre qui est quand même assez explicite. « Et voici que mon cœur s'épanouit et rit, moi qui longtemps souffris, me voici consolée par ce noir violet d'une nuit étoilée, moi qui ne savais point que la lune guérit, moi qui ne savais point que la lune console de tout le chagrin lourd, de toute la rancœur. Sa consolation illumine le cœur d'un rayon éloquent autant qu'une parole. Et d'un rayon furtif, comme un furtif bienfait, elle se glisse au fond torturé de mon âme, elle se glisse avec une douceur de femme, et s'est insinuant comme un obscur bienfait. Comme un obscur bienfait s'insinue, elle glisse. Tout le ciel émergeant de l'ombre est radieux, éternellement cher à mon cœur, à mes yeux. Sois louée à jamais, lune consolatrice. Ça, je trouve que c'est un poème qui est extrêmement joli, charmant, vraiment délicat. Encore une fois, l'association, bon, là, la comparaison est quand même extrêmement claire, hein. Elle se glisse avec une douceur de femme. Elle se glisse, encore une répétition. Donc là, il y a presque un rapport physique entre la lune et la poétesse. Et la lune guérit, la lune console, encore une fois, une personnification quand même. La lune est presque dotée d'une parole, hein. On nous dit « sa consolation illumine le cœur ». D'un rayon éloquent autant qu'une parole. Donc là, c'est intéressant cette double utilisation de l'adjectif éloquent qui est appliqué aussi bien à rayon qu'à parole, sachant que l'utilisation d'éloquent pour rayon est totalement inhabituelle. Alors ce podcast était quand même quasiment exclusivement masculin, donc je vais finir avec une autre autrice, Sylvia Plath, chez qui la lune revient à plusieurs reprises. Alors Plath, c'est une autre poétesse et une autrice que j'affectionne vraiment beaucoup, énormément en fait, parce que c'est l'une des personnes dont je me sens le plus proche et dont l'écriture résonne en moi avec une force et une intimité toute particulière. Et on remarque en fait que la lune, la blancheur, le côté diaphane reviennent très souvent dans son œuvre et offrent à la fois des moments d'une poésie incroyable, des images très profondes et parfois très désespérée, dramatique, mais également très riche. Alors, il y a un premier poème dont je n'ai pas trouvé de lecture. Donc, je vais vous le lire moi, je suis désolée, en anglais. Et le deuxième poème sera lu en anglais par une personne dont l'anglais est la langue maternelle, ce qui sera d'autant plus agréable pour vous. Si vous ne connaissez pas ces poèmes, je vous encourage vivement à rechercher la poésie de Sylvia Plath, et si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, vous pouvez également la découvrir en français. Donc le premier poème s'intitule The Rival. If the moon smiled, she would resemble you. You leave the same impression of something beautiful but annihilating. Both of you are great light borrowers. Her whole mouth grieves at the world. Yours is unaffected. The moon, too, abases her subjects, but in the daytime she is ridiculous. Your dissatisfactions, on the other hand, arise through the male's lot with loving regularity, white and blank, expensive as carbon monoxide. Donc là, il ne s'agit que d'un extrait. C'est un poème qui est quand même assez douloureux, parce que les critiques s'accordent à dire que dans ce poème, Sylvia Plath compare sa mère, ou potentiellement Ted Hughes, qui était son mari, à la lune, mais potentiellement, vraisemblablement, il semble que ce serait plutôt sa mère. Ce qui est assez compréhensible avec les premiers vers, quand elle dit « If the moon smiled, she would resemble you », si la lune souriait, elle te ressemblerait. « You leave the same impression of something beautiful but annihilating », vous laissez ou tu laisses la même impression de quelque chose de beau, mais également annihilant ou destructeur. Both of you are great light borrowers. Her whole mouth grieves at the world. Yours is unaffected. Là, je pense que ce qui est très intéressant dans la poésie de Sylvia Plath, c'est les jeux de mots. C'est le côté extrêmement poétique, mais à la fois extrêmement... comment dire, terre à terre, presque. Là, elle nous dit... Vous êtes toutes deux, comment expliquer ça ? Vous réfléchissez ou vous attirez toutes deux très bien la lumière. Donc là, on a un côté extrêmement pratique, extrêmement organique, effectivement. La lune attire toute la lumière. Et il y a un côté, donc, une première interprétation. Et la deuxième, si l'on va dans une interprétation plus personnelle, de la deuxième image, celle de la comparée, c'est-à-dire la mère, on comprend que la mère attire toute la lumière, peut-être dans le sens où elle ne donne pas assez de place, d'importance, de crédit à sa fille Sylvia Plath, avec qui elle avait une relation extrêmement tumultueuse. Et si on va vers Ted Hughes, c'est également totalement plausible, étant donné que lui-même avait un rapport assez particulier avec sa femme, et qu'ils étaient tous deux poètes, peut-être tous deux rivaux. Donc il y a deux formes de rivalité. Il y a une rivalité là peut-être féminine entre la mère et la fille. Il y a aussi une autre rivalité possible, c'est la rivalité, on va dire, entre les deux poètes, les deux artistes. Et la figure de la lune sert à la fois de transformation poétique pour surpasser ce côté extrêmement personnel et peut-être toucher à une forme plus d'universel, avec d'énormes guillemets, pour les lecteurs et lectrices. Mais ça permet également d'installer le doute, tout simplement, et de rendre le poème plus riche. Et ça permet également, pour le poète ou la poétesse en l'occurrence, qui est quand même quelqu'un qui joue avec les mots, effectivement, de vraiment donner libre cours à sa créativité. Et quand elle dit her whole mouth grieves at the world, yours is unaffected, sa bouche en haut, donc ça renvoie à la forme de la lune, effectivement, grieves at the world, un peu difficile à traduire, exprime une sorte de tristesse, de deuil face au monde, la tienne est unaffected, la tienne est indifférente. Et vers la fin, effectivement, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus prosaïque et de la vie quotidienne, lorsqu'elle nous dit « The moon too abases her subject », la lune également transforme ses sujets. « But in the daytime, she's ridiculous », mais elle, durant le jour, elle est ridicule. « Your dissatisfactions, on the other hand », tes mécontentements, par contre, « right through the mail's lot with loving regularity », me parviennent à travers le courrier avec une régularité aimante. Donc là, on sent l'ironie, quelque chose de très important dans la poésie de Sylvia Plath, « white and blank », vide et blanche, on va dire. Donc là encore, un renvoi à la lune, « expensive as carbon monoxide », qui se répandent comme du monoxyde de carbone. C'est pas se répandre, mais le mot ne me vient pas. Donc je vais vous laisser la deuxième lecture la lecture du deuxième poème qui s'appelle The Moon and the Yew Tree. Et on va juste revenir sur quelques-uns de ces vers.
The moon and the yew tree. This is the light of the mind, cold and planetary. The trees of the mind are black. The light is blue. The grasses unload their griefs on my feet as if I were God, prickling my ankles and murmuring of their humility. Fumy, spiritous mists inhabit this place, separated from my house by a row of headstones. I simply cannot see where there is to get to. The moon is no door. It is a face in its own right, white as a knuckle and terribly upset. It drags the sea after it like a dark crime. It is quiet with the ogape of complete despair. I live here. Twice on Sunday, the bells startle the sky. Eight great tongues affirming the resurrection. At the end, they soberly bong out their names. The yew tree points up. It has a Gothic shape. The eyes lift after it and find the moon. The moon is my mother. She is not sweet like Mary. Her blue garments unloose small bats and owls. How I would like to believe in tenderness. The face of the effigy, gentled by candles, bending on me in particular, its mild eyes. I have fallen a long way. Clouds are flowering blue and mystical over the face of the stars. Inside the church, the saints will be all blue, floating on their delicate feet over the cold pews, their hands and faces stiff with holiness. The moon sees nothing of this. She is bald and wild, and the message of the yew tree is blackness, blackness and silence.
Alors, c'est également un très très beau poème qui peut être interprété de la même façon que le premier. Donc ça, c'est l'un des poèmes les plus connus de Sylvia Plath. Encore une fois, la lune ici renvoie à la mère, tandis que le yew tree renvoie au père de Sylvia Plath. Donc c'est encore une fois un poème qui vient d'une blessure, d'une douleur de Sylvia Plath. Lorsqu'elle nous dit « The moon is no door, it is a face in its own right, white as a knuckle and terribly upset ». Encore une fois, il y a quelque chose, toujours tout ce que j'aime dans la poésie de Sylvia Plath, quand elle nous dit « The moon is white as a knuckle and terribly upset », la lune est blanche comme des phalanges. Et en réalité, pourquoi est-ce que les phalanges seraient blanches? C'est lorsqu'on serre les phalanges de rage, par exemple. Donc, quand là, elle nous décrit cette couleur blanche de la lune avec une image qui, en plus, est extrêmement originale, elle parvient à nous faire comprendre le sentiment que elle ressent, l'attitude de la mère et également ce que la lune peut représenter. C'est vraiment, je trouve, juste magnifique. On a le retour de la figure avec le haut. « It is quiet with the ogape of complete despair. » Donc encore la bouche en forme de O. « The yew tree points up. It has a gothic shape. The eyes lift after it and find the moon. » Donc là, on a encore cette progression. Les yeux qui cherchent the yew tree, donc qui cherchent peut-être le père, qui s'élève et qui ne rencontre que la lune. Et là, très explicite, « The moon is my mother. She is not like sweet Mary. » A blue garments unloose small bats and owls. Donc là, on a encore cette imagerie presque de la sorcellerie avec les chouettes ou les hiboux et les chauves-souris qui, bien sûr, associées à la mère, qui en plus n'est pas sweet like Mary, bien sûr, renvoie une image extrêmement pessimiste, voire péjorative, voire inquiétante et presque marâtre. On va s'arrêter là, parce que ce podcast n'a pas pour but d'être un podcast d'analyse littéraire, mais voilà, j'espère peut-être vous avoir permis de découvrir la poésie de Sylvia Plath, entre autres, parce que j'ai également abordé de nombreux autres artistes, et j'espère vous avoir peut-être donné une idée de comment est-ce qu'on peut lire et apprécier la poésie c'est parfois très intéressant de la lire avec des critiques à côté de soi, d'essayer soi-même de se poser avec un crayon, un stylo et de griffonner quelques idées, quelques hypothèses, de repérer des occurrences de certaines formes ou de certains motifs. Ça permet également de comprendre en fait le réseau d'imagerie que créent très souvent les poètes. J'espère que cela vous aura intéressé, j'espère peut-être avoir été un peu plus loin que l'image traditionnelle de la lune avec la sorcière ou la lune et le loup-garou. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à partager cela avec vous, j'espère que cela vous aura intéressé. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage vivement à le partager sur différentes plateformes, à en parler parce que c'est ce qui fait vivre un podcast. Si vous avez également envie de me soutenir financièrement pour ce travail qui, vous l'aurez sans doute remarqué, est assez conséquent, mais me fait très plaisir, vous pouvez me soutenir en fait, voilà, financièrement sur Patreon avec 1€ par mois ou plus, mais 1€ par mois, c'est déjà énorme. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de lire, qu'il vous aura inspiré, donné envie de lire de la poésie, donné envie de découvrir la littérature étrangère. Et je vous dis à très bientôt.